L'imprévu a du charme, et ça tombe bien, puisque la tribu te propose tout de suite une émission spéciale.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Tribu pour la première émission de la 6e Quesaco du Collège Albert Vinçon. Alors qu'est-ce que cette 6e Quesaco, ou plutôt Quesaco, cette 6e Quesaco ? La réponse tout de suite en compagnie de Suzanne.
Bonjour, je m'appelle Suzanne, j'ai 11 ans, je suis dans la classe des 6e Quesaco et je vais vous présenter notre projet annuel de classe. Notre projet de classe consiste donc à réaliser 4 émissions avec la radio La Tribu sur différents sujets choisis par les 27 élèves de la classe. L'objectif est que tous les élèves choisissent les sujets, écrivent leurs textes et prennent la parole au micro. Élise, animatrice à la radio La Tribu, est intervenue dans notre classe le mardi 10 novembre pour nous expliquer comment notre projet allait se dérouler et pour nous présenter les grandes règles du langage radio. Comment écrire les textes, comment articuler, comment s'organiser. Nous vous donnons rendez-vous 4 fois dans l'année. Aujourd'hui, en février, en avril et en juin, avec notre dernière émission qui sera en direct. Comme nous sommes trop nombreux, nous ne pouvons pas nous déplacer dans le studio de La Tribu. Donc Élise amènera un studio mobile au collège. Les 3 premières émissions seront enregistrées, puis montées par Élise et ensuite diffusées sur la radio, fréquence 106.9. L'émission est également réécoutable en podcast sur le site de La Tribu. Les 5 classes de 6e du collège, nous sommes la seule à être une classe à projet éducation aux médias. Nous avons une heure de plus dans notre emploi du temps, chaque mardi pour travailler avec Madame Tolly, professeure d'histoire-géographie, et Madame Lavalard, professeure documentaliste. Notre professeure principale, Madame Lavalard, n'a pas choisi au hasard le nom de notre classe. En effet, Quesaco signifie « qu'est-ce que c'est ?». Cela fait référence à la curiosité des journalistes, qui doivent toujours se poser des questions. Les années précédentes, Madame Lavalard avait appelé ses classes 6e reporter et 6e la tribu. En fin d'année, si le contexte sanitaire s'améliore, une sortie est prévue pour aller assister à un journal télévisé dans les studios de TV Rennes et visiter le site de production du journal Ouest France. Nous espérons vraiment pouvoir faire cette sortie. Voilà, vous savez tout nous concernant. Je laisse maintenant Aristide et Enzo vous présenter le sommaire de cette première émission.
Bonjour, nous sommes très heureux de vous présenter notre première émission de radio. Au sommaire aujourd'hui, pour commencer, Marie et Sarah vous parleront de leur rentrée en 6e et ont demandé à quelques élèves leurs impressions. Lilijane et Chanel se sont intéressés aux protocoles sanitaires mis en place au collège et ont enquêté pour savoir si cela avait déjà existé auparavant. Puis Baptiste, Lucia et Linette vous présenteront les projets de classe des 4 autres 6e. Et pour finir sur le collège, Gabriel, Tom et Roman ont voulu en savoir plus sur nos assiettes et ont interviewé Monsieur Rochon, second en cuisine.
Nous continuerons l'émission par une rubrique culture avec Shana, Nino, Arthur et Achille qui vous parleront de leur coup de cœur. En deuxième partie d'émission, nous nous sommes intéressés à l'environnement et notre impact sur la nature. Charlotte, Liam et Benny ont enquêté sur nos déchets. Paulina, Inès et Jamily nous parleront des espèces menacées, tandis qu'Ewen et Yuna vous présenteront les projets des 5e Bloom. Chaque émission se terminera par une chronique média. Pour la première, Enzo et Maxime ont eu envie de vous parler de la liberté d'expression. Et vous avez intérêt à être bien attentif car Suzanne vous a préparé un petit quiz en fin d'émission pour tester vos connaissances.
Voilà le programme.
Bonne émission.
La 6e, c'est de ça dont on va parler, plus précisément de la rentrée en 6e en compagnie de Sarah et Marie qui vont nous raconter comment ça s'est passé pour elles. Bonjour les filles.
Bonjour. Bonjour.
Ça va?
Oui. Oui.
Alors Marie, cette rentrée de 6e.
Donc pour ma rentrée en 6e, le 1er septembre, je n'étais pas stressée au contraire de mes amis. Avec le confinement l'année dernière, j'étais pressée de finir mon CM2 qui s'est terminé un peu bizarrement. J'avais envie d'aller au collège et mon grand frère y était 2 ans auparavant. Il m'avait un peu expliqué le collège, donc je me sentais plutôt sereine. J'adore les changements, donc j'avais hâte d'être en septembre. Les premiers jours, j'avais peur de me perdre dans ce grand bâtiment, mais il n'est plus très grand à mes yeux aujourd'hui. Nous changeons de classe à chaque heure. J'aime bien car ça nous permet de bouger et de respirer un peu entre chaque cours. Ça fait du bien, et puis comme nous changeons aussi de place, c'est bien de ne pas être toujours à côté du même camarade. Il a fallu s'habituer au port du masque, ne plus être dans la même classe que ses amis du primaire, mais la cantine est bien meilleure. Bref, je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés. Aujourd'hui, je me sens super bien et j'adore le collège. Si j'avais un conseil à donner aux futurs 6e, c'est de très bien travailler, particulièrement en histoire géo avec Madame Tolly.
Et alors pourquoi particulièrement en histoire géo ?
Bah, pour les évaluations, il faut quand même beaucoup travailler, mais enfin, moi, ça ne me dérange pas, pas plus que ça.
D'accord, mais pourquoi plus avec Madame Touli qu'avec les autres? On a envie de savoir. La France veut savoir.
Ben, il y a pas mal de questions. Et puis, après, faut chercher. Quand elle nous donne les réponses, et ben, c'est grand. Enfin, il y a beaucoup de phrases.
Ok, très bien. Bon, bah, pour les prochains sixièmes, hein, vous êtes au courant. Si vous avez Madame Toli, il va falloir bien travailler en histoire-géographie. Sarah, pour toi, cette rentrée de sixième, c'était comment ?
Bah, quand je suis rentrée en sixième, j'étais beaucoup stressée. Pendant les vacances cet été, j'ai pensé à ma rentrée. J'avais peur de ne pas être avec mes copines, mais aussi des grands des troisièmes. J'avais peur aussi d'être débordée par les devoirs à la maison. En plus, quand j'avais visité le collège aux portes ouvertes en février l'année dernière, je l'avais trouvé immense et j'avais peur de m'y perdre. Mais finalement, tout s'est super bien passé, à part le port du masque qui donne chaud et qu'il faut penser à changer le midi et à laver chaque soir. Avoir plus de professeurs, c'est bien car ça change, sauf qu'on a plus de devoirs le soir, surtout quand il y a des évaluations. Je m'organise en apprenant à l'avance et je révise la veille. Du coup, les devoirs sont assez rapides. J'ai aussi une nouvelle matière, la technologie. J'ai appris à me servir d'un ordinateur et nous travaillons dessus quand nous sommes par demi-groupe. En classe entière, on a travaillé sur les évaluations des voitures, sur les fonctions techniques, des objets et plein d'autres choses. J'aime bien cette matière. Le collège, globalement, c'est plutôt bien. Et maintenant, j'adore. Il y a une ambiance plutôt cool et ça, j'aime bien. En plus, la cantine est meilleure qu'en primaire. Les repas sont variés et bons.
Ah, ça, c'est important, hein, la cantine.
Oui.
Ah oui, ah bah oui, je suis d'accord avec vous. Bon, eh bien, en tout cas, merci les filles. On reste avec vous, hein, mais on va retrouver d'autres collégiens, d'autres sixièmes d'Albert Vincent. Ils vont nous parler, eux aussi, de cette fameuse rentrée au collège. On les écoute.
Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter 4 élèves, donc 2 de Nautilus et 2 de Damien Seguin. Donc pour les Nautilus, il y aura Jeanne et Clara, et pour Damien Seguin, il y aura Maxence et Toan. Donc là, je vais passer le micro à Sarah.
Donc d'abord, on va leur poser des questions sur leur entrée en 6e. Est-ce que tu étais stressée à l'idée de rentrer au collège ?
Oui, un petit peu, mais j'avais quand même hâte vu que je passais à une école supérieure.
Oui, j'étais assez stressée comme Clara, mais j'étais contente puisque j'arrivais au collège.
Oui, j'étais stressée, mais maintenant ça va.
Oui, j'étais un peu stressée, mais j'étais excitée à l'idée de rentrer au collège.
Sur le... Tu es encore à Clara ?
Non, et puis je me suis fait de nouveaux amis, donc c'est mieux.
Non, parce que je me suis fait de nouveaux amis aussi, du coup je me suis plus stressée.
Maintenant, on va passer sur le protocole sanitaire. Donc,
est-ce que tu en as marre du masque des 1 mètre et tu supportes plutôt bien les coronavirus ?
Oui, parce que faut se protéger et puis au moins je ne l'attrape pas.
J'aime pas trop les 1 mètre, mais sinon je porte bien le masque pour me protéger.
Non, moi le masque ne me dérange pas.
Tu es plutôt le genre de personne qui le garde tout le temps ou le genre de personne qui l'enlève régulièrement ?
Non, je le mets parce qu'il faut se protéger.
Je l'enlève parfois dans la cour, mais j'essaie de garder mes distances quand je l'enlève.
Oui, moi je garde tout le temps mon masque.
Oui, mon masque, je le garde souvent.
Donc maintenant, on va passer à la cantine. Est-ce que tu aimes bien la nourriture au collège ?
Oui, elle est très bonne, elle est meilleure qu'à l'élémentaire.
Oui, j'aime beaucoup la nourriture, elle est beaucoup meilleure que l'élémentaire, mais je peux pas trop juger puisque je n'avais pas beaucoup à la cantine avant.
Oui, elle est trop bonne, la viande aussi.
Toi ?
Oui, j'aime bien la cantine au collège, surtout le pain.
Tu manges tout sur ton plateau ou tu laisses la nourriture ?
Bah, je mange ce que je peux et ce que j'aime. Et j'essaye de tout manger quand même.
Je mange au maximum que je peux, sachant que je suis un petit peu difficile, donc c'est un peu compliqué.
Oui, j'essaie de bien manger et des fois, quand j'aime pas, bah, je me force à manger, mais sinon je laisse.
Oui, je mange souvent tout mon plateau parce que je me force à manger.
Donc maintenant, on va passer au collège. Donc tu préfères l'école primaire ou tu préfères le collège ?
Je préfère le collège car c'est mieux. Du coup, bah, je m'amuse mieux et puis c'est plus grand.
Oui, moi aussi, je préfère le collège parce que c'est plus grand et je me suis fait de nouveaux amis.
C'est pas parce que la primaire, j'y suis depuis 8 ans, je fais des amis depuis. Mais ça va peut-être changer parce que je vais rester plus longtemps au collège.
Je préfère un peu le collège, mais j'aimais bien aussi la primaire, mais ça, c'est différent.
Es-tu contente d'être au collège et as-tu des amis dans ta classe ?
Oui, j'en ai beaucoup et c'est mieux.
J'aime beaucoup l'élémentaire, mais j'aime beaucoup le collège car je ne suis pas amie avec toute ma classe, mais en tout cas, je m'entends bien avec eux.
J'ai beaucoup d'amis dans ma classe et je me suis fait des amis, donc c'est plutôt cool.
Oui, j'ai pas mal d'amis dans ma classe car la plupart sont gentils.
Donc c'est fini et puis
on vous souhaite une bonne journée.
Merci aux élèves de 6e qui ont accepté de répondre à vos questions. C'était sympa à faire ?
Ah oui.
Ah oui. Ah oui, prête à recommencer pour la prochaine émission.
Oui. Oui.
Bon, eh bien, parfait. Et le moins que l'on puisse dire, hein, on vient de parler des sixièmes, c'est qu'ils ne vont pas s'ennuyer cette année, les sixièmes d'Albert Vincent, puisque je vous propose tout de suite de découvrir les projets de classe des sixièmes de votre collège. Et c'est Lucia Battistellinette qui nous les présente. Et Lucia, c'est toi qui commences avec la sixième en vol.
Le projet de classe des sixièmes en vol est de travailler avec une association qui s'appelle les Alcidés. L'association est tenue par une vétérinaire. Elle recueille et soigne les animaux blessés. Une autre classe travaille également sur ce projet, les 4e Alcidés. Pour information, les Alcidés sont une famille d'oiseaux constituée de 23 espèces, parmi lesquelles on trouve les pingouins et les macareux. Madame Tolly, qui est la professeure principale de la classe de 6e, travaille pour la première fois sur ce projet. Elle a choisi ce projet parce qu'elle trouve ça important de travailler à plusieurs classes et que les élèves puissent agir. En effet, ils vont aider l'association en fabriquant des abris pour les animaux à la fin de l'année. Ils iront la visiter. Madame Tolly a choisi d'appeler sa classe la sixième en vol car ce mot est en rapport avec les oiseaux.
Et je disais tout à l'heure hein, que c'était un bon nom de classe, le nom en vol, mais c'est aussi un très beau projet. Et pas de jaloux du côté des sixièmes, autre projet tout aussi sympa et c'est Baptiste qui nous en parle.
Le projet de classe des sixièmes Damien Seguin consiste à travailler sur le thème du handisport. L'objectif de Madame Tranchant, leur professeur principal et professeur d'éducation musicale, est de sensibiliser les élèves sur le sport adapté à des situations de handicap. Ainsi, les élèves de cette sixième vont suivre le bateau du navigateur Damien Seguin dans la course du Vendée Globe autour du monde. Damien Seguin, dont la classe porte le nom, est un skipper français âgé de 41 ans. Madame Tranchant a choisi ce nom car ce navigateur est né sans l'usage de sa main gauche. Malgré ce handicap, il est devenu skipper de haut niveau. La classe travaille sur la course du Vendée Globe qui n'arrive que tous les 4 ans. Cette année, les participants et participantes sont partis le dimanche 8 novembre 2020 à 14h des Sables d'Olonne en Vendée. Le Vendée Globe est une course de bateau monocoque, sans escale, sans assistance et en solitaire, et qui a lieu tous les 4 ans. Les skippers partent des Sables d'Olonne et font le tour du monde. Le dernier record est détenu par Armel Lecléache en 74 jours et 3 heures. Cette année, 33 bateaux sont au départ, dont 6 femmes et 9 nationalités. Leur but est de finir la course car depuis la première édition en 1989, aucune flotte n'est jamais arrivée au complet. Seul Michel Desjoyeaux a réussi l'exploit de gagner deux Vendée Globes 2001 et 2008-2009. L'association des pieds et des mains va peut-être intervenir dans la classe et les élèves devraient aller faire de la voile. Tout dépend donc du protocole mis en place dans les mois à venir.
Merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus sur le Vendée Globe, je vous propose de retrouver sur nos ondes ou sur notre site très prochainement l'émission d'une autre classe, celle des 5e La Tribu du Collège Pierre-Norange, qui vont eux beaucoup nous parler du Vendée Globe dans leur première émission et accueillir un invité hein, de la classe 5e Vendée Globe de leur collège. Donc décidément, c'est un projet qui fédère beaucoup hein, le Vendée Globe. Pour la suite de la présentation des projets de classe des 6e d'Albert Vincent, nous restons dans l'univers maritime, mais cette fois celui des profondeurs avec la sixième Nautilus et c'est Linette qui nous en parle.
Bonjour, je vais vous présenter le projet de classe des sixièmes Nautilus, leur professeur principal Madame Cadec, professeur de technologie. Nautilus est le nom du sous-marin par Jules Verne dans son célèbre roman 20 milieux sous les mers et ce sous-marin a pris vie grâce au projet artistique des machines de Lille à Nantes. Pour ceux qui ne connaissent pas, deux inventeurs ont décidé de fabriquer des curieuses machines articulées en s'inspirant du monde sous-marin de Jules Verne et de l'univers mécanique de Léonard de Vinci. Les élèves de Madame Cadec vont donc aller à Nantes admirer les machines de Lille puis fabriquer des animaux articulés et peut-être même les motoriser. Pour l'instant, le projet n'a pas démarré puisque les musées sont fermés.
Merci Linette, on retrouve de nouveau Lucia qui va mettre à l'honneur cette fois les sixièmes d'Aradji.
La dernière classe de sixième s'appelle la sixième d'Aradji. Ce mot désigne l'école en Wolof, c'est la langue principale parlée en Mauritanie. Madame Charrier, qui est la professeure principale de la classe, a choisi ce nom en référence à son projet de classe. En effet, ses élèves vont organiser une course solidaire regroupant les écoles du secteur et tous les élèves de sixième du collège. Ce projet se déroule en plusieurs étapes. La réservation du stade, l'information aux écoles primaires,
l'organisation du parrainage et l'encadrement de la cour. C'est un projet solidaire car les élèves seront parrainés et à chaque tour de piste du stade, ils récolteront de l'argent qui sera reversé à une association de Mauritanie qui aide à la scolarisation des enfants. Le choix de la Mauritanie s'explique par le fait que depuis plusieurs années, le collège fait appel à un compteur Mamadou Sall lors du séjour d'intégration des 6e et qu'il travaille avec une école mauritanienne.
Merci Lucia de nous avoir permis de découvrir ce beau projet. Merci et puis nous on se retrouve juste après une courte pause musicale dans la tribu pour parler du fameux protocole sanitaire. Ça vous dit quelque chose ?
On se connaît pas, qu'est-ce que tu tiens? J't'écoute parler, j'entends rien. J't'ai jamais vu, j'te kiffe bien. Bla 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 bla. On se connaît pas, qu'est-ce que tu deviens? J't'écoute parler, j'entends rien. J't'ai jamais vu, j'te kiffe bien. Bla 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 bla.
Ok, gilet noir, logo protecteur.
Déjà collector,
lunettes noires sous le projecteur.
On en fait des tonnes.
J'te connais pas, tu m'envoies des fleurs.
Elles sont inodores.
Dès le départ, nous c'est mort avant l'heure.
Comme la vidéo d'or. Petit fourré, gros pacha. Ton sourire est kachasa. La bise à machin, machin.
C'est soirée.
Wachi, wacha.
Du strass et des.
Beauté t'es fragile.
Tu lâches et de.
Vacherie facile.
Des flashs.
Star à
on s'y croirait.
Mais c'est pas ça.
Sous le mélange.
Parce qu'il faut se mêler.
Sous la menace.
D'être ce qu'on aimait.
On part à ton palabre.
Sous le feu.
La carte on l'a pas mais non.
Joue le jeu. À la recherche de.
Tu peux péter.
D'une recette d'un.
Tu peux t'éter.
Le bon goût des pas.
Toujours au menu.
Du coup le repas.
Comme on est venu.
Gilet noir. Logo brodé or.
Déjà collector.
Lunettes noires sous les projecteurs.
On en fait des tonnes.
Je te connais pas. Tu m'envoies des fleurs.
Elles sont inodores.
Dès le départ nous aimons avant l'heure.
Comme la vidéo d'or.
On se connaît pas. Qu'est-ce tu tiens? Je t'écoute parler. J'entends rien. Je t'ai jamais vu, j'te kiffe bien. Bla 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 bla. On se connaît pas, qu'est-ce que tu tiens? J't'écoute parler, j'entends rien. J't'ai jamais vu, j'te kiffe bien. Bla 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 bla.
La tribu des hits, un peu et du fun, peut-être trop. De retour dans la tribu, toujours en compagnie des 6e Kézako du collège Albert Vincent, et nous allons maintenant retrouver Lily Jeanne qui va nous parler de ce que, hélas, maintenant on maîtrise presque tous, hein, le fameux protocole sanitaire. C'est ça Lily Jeanne ?
Oui.
Et toi tu vas nous parler plus précisément de celui d'Albert Vincent.
C'est ça.
Ça tombe bien, c'est celui qui vous concerne en fait. Eh bien nous t'écoutons.
Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le protocole sanitaire mis en place dans notre collège. Nous devons porter le masque toute la journée, y compris pendant les récréations. C'est pesant de travailler avec tout le temps. On doit parler beaucoup plus fort et c'est fatigant. Nous avons le droit de sortir dans le couloir si on a besoin de prendre un peu d'air ou si on a mal à la tête. Le seul moment où nous l'enlevons, c'est pour manger. Il y a aussi un sens de circulation fléché dans les couloirs et deux escaliers de montée et un escalier de descente afin de limiter les croisements d'élèves. Concernant le lavage des mains, nous prenons du gel hydroalcoolique à chaque entrée de cours ainsi qu'à l'entrée de la cantine. L'année dernière, le gel provenait du lycée Inlex qui les fabrique dans ses ateliers. En effet, ils sont spécialisés dans la chimie. Mais depuis, le collège s'approvisionne dans un commerce pharmaceutique. Le protocole sanitaire a surtout beaucoup changé nos habitudes pour déjeuner. Car depuis les dernières annonces du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, l'organisation du passage à la cantine a été complètement revue. Le service commence à 11h30 au lieu de 12h05. Par conséquent, les cours de cette dernière heure de la matinée ont dû être déplacés ou annulés. Nous ne pouvons plus manger avec qui nous voulons puisque nous sommes placés sur une table, uniquement avec des camarades de notre classe, pour éviter le brassage et permettre d'identifier les cas contacts en cas de contamination. Le mètre de distance est respecté à raison d'une place sur deux occupée. Pour boire, nous devons apporter notre gourde ou alors les surveillants nous servent avec des pichets d'eau. Le nombre de places disponibles au self a donc été réduit de moitié et le temps du service augmenté. Avant, il fallait à peu près 1h25 pour faire manger les 380 demi-pensionnaires. Avec le protocole, il faut 2h. Pour les agents, le protocole a augmenté leur temps de travail puisqu'ils doivent aussi désinfecter les classes en fin de journée. Pour les élèves, ce protocole sanitaire est pesant. Cela crée des disputes et des tensions sur la cour.
On va continuer de parler protocole sanitaire, mais cette fois protocole sanitaire dans l'histoire. Et aujourd'hui, notre historienne, c'est Chanel.
le protocole sanitaire dans l'histoire. Nous avons mené notre petite enquête pour savoir s'il y avait déjà eu un protocole sanitaire par le passé. En 1918, pendant l'épidémie de la grippe espagnole, 50 millions de personnes sont mortes et 500 millions ont été contaminées. Cette grippe a duré 2 ans et s'est faite en 3 vagues de contamination. Un protocole sanitaire a été décidé avec la mise en quarantaine de la population, la distanciation, le lavage des mains et l'interdiction de cracher par terre. Aux États-Unis, les écoles de la ville de Saint-Louis ont été fermées. À Seattle, le port du masque a été imposé dans les transports en commun et à New York, les horaires d'embauche des entreprises ont été décalés. Malgré tout, aucun confinement généralisé n'a vu le jour, contrairement à aujourd'hui. Selon l'agence France Presse, en mars 2020, lors du premier confinement, plus de 3,4 milliards de personnes étaient confinées, soit la moitié de la population mondiale répartie sur 80 pays. Au 9 décembre 2020, on dénombre plus de 69 millions de cas de coronavirus à travers le monde et 1,5 million de décès.
Eh bien merci, on a appris plein de choses grâce à toi. Et on voit qu'au début, quand on n'avait pas encore les masques, on nous avait bien parlé de la distanciation, on nous avait bien parlé du lavage des mains, mais je crois qu'on a oublié de nous demander d'arrêter de cracher par terre, alors que bon, va falloir y penser maintenant. Avec le masque, ça a réglé le problème en même temps. On n'a plus du tout envie de cracher. Hein. Trop sale. Ah là là. Bon, tout à l'heure, toi, Lily-Jeanne, tu nous disais que le protocole était compliqué pour les élèves et que ça avait aussi créé du travail beaucoup pour les agents. On imagine que c'est pas facile pour les salariés du collège, ce protocole. Tom, Gabriel et Romane, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors les gars, vous êtes allés enquêter sur le terrain, c'est ça?
Oui.
Il me semble que vous êtes allé rencontrer Monsieur Rochon.
Oui.
Et il me semble aussi qu'il travaille à la cantine, c'est ça?
Oui. Oui.
Bon, de toute façon, il nous explique tout ça. On l'écoute tout de suite dans votre reportage.
Ok.
Bonjour. Pourriez-vous vous présenter?
Alors, je m'appelle Emmanuel Rochon. Je suis seconde cuisine dans les cuisines du Collège Albert Vincent.
Quels sont vos horaires de travail?
Alors, actuellement, avec la Covid-19... On commence à 5h le matin et on arrête à 15h20 les lundis, mardis, jeudi, vendredi. Et le mercredi, on fait 6h midi.
En quoi consiste votre métier?
À faire toutes les préparations de cuisine pour le collège, pour vous. Alors nous, on a la particularité de tourner sur tous les postes dans la cuisine. On fait aussi bien du chaud, du froid, des desserts, un petit peu tout ce qui a trait. Et puis beaucoup de nettoyage et de désinfection à l'heure actuelle.
Cuisinez-vous des plats sur place?
On cuisine tout sur place. Ici, il n'y a rien qui vient de l'extérieur. Tout est préparé à l'instant T.
Pouvez-vous nous donner quelques plats en exemple?
Oui, je peux vous donner des petites recettes. Petites recettes de potage. Par exemple, le potage de jeudi. Potage de lentilles corail, au lait de coco, écurry. Tous les sautés de bœuf. Enfin, voilà, tout ce qui est fait ici, de toute façon, est tout fait par nos soins.
Quels sont les avantages de cuisiner sur place?
C'est d'avoir de la matière première fraîche. Bio pour beaucoup, circuit court aussi. On travaille beaucoup avec des producteurs de Loire-Atlantique.
Combien le réfectoire peut-il accueillir avec le protocole sanitaire?
Alors normalement, le réfectoire peut accueillir 200 élèves. On faisait avant le service sur 2 rotations, donc on accueillait environ 420 personnes. Mais à l'heure actuelle, avec la Covid, on est sur des passages de 80 élèves, donc sur 5 rotations, de 11h30 à 13h30.
Combien de kilos de nourriture faites-vous par jour?
À l'heure actuelle, on est sur environ 40 ou 45 kilos de viande ou de poisson, ça dépend, sur 60 à 65 kilos de légumes. Et puis, en proportion de fruits, on passe à la journée environ 20 à 25 kilos de fruits. Et puis, au niveau des entrées, bah, ça dépend si c'est des entrées, on va dire une salade, on est sur environ 25 ou 30 kilos d'ingrédients divers et variés.
Comment conservez-vous la nourriture?
Dans des chambres froides spécifiques, à certains degrés. En fait, on a une chambre froide uniquement dédiée aux fruits et légumes. On en a une autre qui est dédiée uniquement à la viande et aux poissons. Et puis on a une troisième chambre froide qui est dédiée au bof. Donc le bof, c'est beurre, œufs, fromage, tous les produits laitiers, les ovoïdes. Et puis on a un congélateur, on a une chambre froide, on a une grande réserve froide. Voilà. Et puis divers frigos dans la cuisine.
Y a-t-il a-t-il beaucoup de gaspillage à la cantine ?
Oui, beaucoup trop. Il y en a toujours trop. Il y a malheureusement trop de gaspillage en ce qui concerne à l'heure actuelle la viande, le pain. On y travaille, mais malgré tout, les années se suivent et se ressemblent.
Qui est-ce qui décide de ce qu'on mange ?
C'est le plan alimentaire. On est soumis au niveau du département à un plan alimentaire, donc sur 5 semaines. Et puis, en fonction de ce qu'on doit mettre dans ce plan alimentaire, le chef et le sous-chef de cuisine, en l'occurrence mon collègue et moi-même, on établit des menus. Et puis, la direction donne son aval ou pas. L'infirmière a un droit de regard aussi dessus. C'est des plats qui sont, ou des menus, qui sont faits donc, sur 5 à 6 semaines, en fonction des saisons, en fonction des produits. Voilà.
Merci encore à Monsieur Rochon d'avoir accepté de répondre à vos questions. Et alors, messieurs, votre enquête ne s'arrête pas là.
Non.
Vous avez une autre invitée.
Madame Charpentier.
Et alors, qui est Madame Charpentier ?
C'est la gestionnaire du collège.
Et alors là, vous n'êtes pas allée au reportage, hein, elle est bien avec nous autour de cette table. Donc
bonjour.
Bonjour. Je vais vous laisser, mener à bien votre interview.
Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ?
Alors, je suis Madame Charpentier, je suis la gestionnaire du collège. Donc, je suis en poste depuis le 1er septembre et je m'occupe de gérer les agents et le budget de l'établissement.
Combien de repas sont servis par jour ?
On a environ 390 repas par jour.
Où achetez-vous vos produits ?
On essaie d'utiliser les circuits courts, mais on a aussi d'autres fournisseurs que des circuits courts, c'est-à-dire les producteurs de proximité.
Combien coûte un repas ?
Un repas coûte 3,20 €, tout compris, avec les charges qui incombent au plat en entier, c'est-à-dire la viabilisation, l'eau, l'électricité, le gaz, ainsi que le salaire des agents qui le fabriquent.
Ok.
Et moi, j'ai toujours des questions en plus. C'est ma petite touche, hein. Je ne peux pas m'en empêcher. Il y a combien d'agents qui travaillent à la cantine à Albert
Alors,
Vincent ?
En fait, c'est une équipe de 10 agents, dont sauf une personne qui est l'agent de maintenance, qui ne travaille pas à la restauration. Tous les agents travaillent sur le moment de la restauration, c'est-à-dire aussi bien au service qu'à la plonge.
Et on en parlait tout à l'heure hein, avec Lily Jeanne hein, du protocole. Ça a beaucoup changé leur façon de travailler, le protocole mis en place cette année ?
En fait, comme la pause méridienne a rallongé, ils ont plus de nettoyage et de désinfection à effectuer. Et pour la restauration, en fait, ils commencent plus tôt le matin.
D'accord. Voilà. Et donc ça a quand même changé
ça
pas mal.
Ça a rallongé leur journée, mais on n'a pas le choix pour que tous nos élèves puissent passer dans des conditions correctes et respectant le protocole.
Des fois, ça doit être un peu à s'arracher les cheveux, j'imagine, non ?
C'est fatigant. C'est assez fatigant. Mais les jeunes respectent assez bien le protocole sanitaire mis en place pour le moment de la restauration, mais c'est une période assez longue quand même.
Et alors, donc j'y suis. Hein. Tout à l'heure, Lily Jeanne, elle nous parlait également du fameux gel hydroalcoolique.
Oui.
Vous êtes gestionnaire. Combien de gel hydroalcoolique ? Enfin, vous consommez, ça doit être impressionnant quand même avec
alors,
tous ces élèves.
Alors, en fait, on en consomme 5 litres par étage, notre établissement par semaine. Donc, notre établissement a 3 étages. Plus ce qui est utilisé, c'est aussi 5 litres au niveau de l'EPS. Donc, vous voyez qu'on est facilement à plus de 20 litres par semaine.
Ah, d'accord. Et ça, c'est pareil, c'est un coût supplémentaire aussi ?
Oui, tout à fait.
Pour le collège ?
Oui. Exactement. Mais je vais revenir sur ce qu'a dit Lily Jeanne. En fait, on s'approvisionne toujours au lycée Alexin.
D'accord, ok.
Oui, oui, en grande quantité, en fait. Donc, heureusement qu'ils en fabriquent parce que, du coup, c'est assez pratique et puis c'est assez facile à récupérer. Donc, on achète toujours au lycée Alexin.
Et donc, ce sont les élèves...
Ce sont les élèves du lycée professionnel Alex qui fabriquent la lotion hydroalcoolique. Et nous, on va la récupérer pour la mettre dans les salles de classe ainsi qu'en EPS aussi. D'accord. En EPS, ils en utilisent beaucoup parce qu'ils se désinfectent très souvent les mains.
D'accord. Et en plus, c'est plutôt chouette hein, pour les lycéens.
Tout à fait. C'est un beau projet. Et puis, pour nous, c'est vraiment une proximité aussi d'approvisionnement. Et ce qui n'est pas évident vu notre consommation depuis le début de l'année.
Eh bien, merci beaucoup. Là, c'est bon, vous avez toutes les réponses que vous posiez, messieurs.
Oui.
Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Et puis, à très bientôt.
Ah oui.
Et puis, merci à vous, messieurs. Merci, mesdemoiselles. On se retrouve dans un instant dans la tribu et on change complètement de sujet. Hein. Il va falloir le dire, puisqu'on va aller sur le plan culturel de l'émission.
La tribu.
Vive ensemble.
La tribu, nous sommes toujours en compagnie de la classe de 6e Kézako du collège Albert Vincent. En ces temps un peu compliqués, nous passons plus de temps chez nous. Il faut donc trouver à s'occuper. Films, jeux vidéo ou encore livres. Arthur, Achille, Chana et Nino vont nous faire des suggestions culturelles. Et c'est Achille qui commence avec un jeu vidéo.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu vidéo Among Us qui est un de mes coups de cœur. Among Us est un jeu multijoueur en ligne ou en local développé et édité par le studio InnerSlot pour les plateformes Android, iOS ou Windows. Ce jeu est sorti le 15 juin 2018 et il met en avant un univers de science-fiction. Chaque joueur incarne un des membres de l'équipage d'un vaisseau spatial, mais les autres participants sont alors des imposteurs. L'objectif de l'équipage est donc d'identifier les imposteurs grâce notamment au système de surveillance comme les caméras. Il faut ensuite éliminer les imposteurs. A l'inverse, les imposteurs, eux, doivent éliminer les membres de l'équipage sans se faire repérer. Mais les personnes éliminées deviennent alors des fantômes et peuvent alors traverser les parois, les murs, les portes. A la fin de la partie, tous les joueurs participent à un vote pour désigner les imposteurs. Mais les fantômes ne peuvent pas voter. Cependant, la partie peut être très longue, notamment si personne ne déclenche l'alarme qui entraîne le vote. J'aime bien ce jeu car il s'agit d'un jeu de rôle mystère. Je vous conseille donc vivement ce jeu vidéo.
Eh bien merci, hein, je n'ai plus qu'à écouter ton conseil et aller essayer hein, ce jeu. On ne sait jamais, peut-être que ça va me plaire aussi. Hein. Bon, ça a l'air un peu compliqué quand même, faut que je me concentre sur le coup. Cette histoire de fantôme, d'imposteur, tout ça, mais moi je veux pas être... On peut être nous des imposteurs ?
Oui.
Ah ouais, mais moi j'ai pas envie d'être imposteur, ça va me perturber cette histoire. Bon, j'irai voir quand même. Mais j'aime aussi beaucoup lire et ça tombe bien, parce que d'après ce que j'ai compris, Achille, toi c'est un livre que tu nous conseilles.
Bonjour à tous, je vais vous présenter La Guerre des Clans qui est une série de 7 cycles écrits par Erin Hunter dont 5 sont aujourd'hui traduits en français. Ces livres racontent les aventures de chats sauvages qui sont organisés en 4 clans. Le clan du vent, le clan du tonnerre, celui de la rivière et enfin celui de l'ombre. Ces chats croient également à l'existence du clan des étoiles qui réunirait les chats morts mais qui auraient fait le bien de leurs vivants. Chaque cycle parle de l'évolution d'un chat dans l'apprentissage en tant que guerrier. En effet, chaque chat peut progresser dans la hiérarchie du clan de simple apprenti à chef de clan, qui est le rang ultime. Le premier cycle nous parle d'un chat qui s'appelle Rusty. Rusty est un chat apprivoisé qui veut quitter le confort de sa vie domestique pour devenir un chat sauvage. Il fait alors la rencontre du clan du tonnerre. J'ai vraiment bien aimé ces livres car ils nous plongent dans la vie des chats sauvages et permettent de nous évader de notre vie d'être humain. Ces chats ont en plus des traits de caractère proches des humains, ce qui permet à chaque lecteur ou lectrice de s'identifier. Je vous conseille vivement la lecture de cet ouvrage, que du bonheur.
Rien que ça, eh bien ça donne envie. En tout cas, merci beaucoup Achille. Je vous rassure, on ne laisse pas Shana dans un coin. Alors si cette référence ne vous parle pas, écoutez très attentivement la chronique qui suit.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon film coup de cœur. Il s'agit de Dirty Dancing, réalisé par Emile Ardolino en 1987. Ce film réunit l'acteur Patrick Swayze et l'actrice Jennifer Grey. Dans les années 60, une jeune femme surnommée Bébé passe des vacances avec sa famille dans un club pour riches. Un jour, elle apprend que les employés et animateurs du village estival de vacances organisent des soirées clandestines de danse. Pour cette jeune fille sage, l'apprentissage de danse de salon comme la salsa ou la rumba est le début d'une forme d'émancipation. En effet, elle fait la connaissance de Johnny Castel, un professeur de danse, dont elle tombe éperdument amoureuse, ce qui bouleverse son existence. En 2004, un Dirty Dancing 2 est sorti, mais cette fois sans les acteurs fétiches du film d'origine. Si vous n'avez pas vu encore ce film, alors dépêchez-vous de le visionner. Je vous conseille car vous allez passer un excellent moment et c'est une très belle histoire d'amour.
Et oui, une très belle histoire d'amour et avec une bonne bande originale pour ceux qui aiment la musique. Et moi, ça me fait plaisir de voir que 30 ans après, hein, ce film plaît toujours aux jeunes. On n'y croyait pas, mais si. On continue de parler de cinéma dans la tribu et cette fois avec Nino. Et alors toi Nino, tout à l'heure on a eu notre historienne en protocole sanitaire. Maintenant nous avons notre historien en cinéma.
J'ai envie de vous parler pour cette première rubrique culture de l'histoire du cinéma. Le cinéma a été inventé en 1895 par Louis et Auguste Lumière, deux frères ingénieurs français. Ils sont les premiers à avoir projeté un film en public grâce à une machine qu'ils avaient fabriquée. Ce film, d'une durée de 45 secondes, s'appelle « L'arroseur arrosé » et montre un homme en train d'arroser son jardin. Une personne arrive alors et bouche discrètement le tuyau d'arrosage et le relâche lorsque le jardinier met son œil dans le trou du tuyau. En mars 1895, il dépose le brevet du cinématographe et organise la première représentation publique et payante à Paris. Les spectateurs sont époustouflés et restent cloués au fond de leur siège. Les premiers films sont muets et en noir et blanc. Le premier film sonore sort en 1927 et le premier film en couleur en 1937. Il faut attendre 1953 pour le premier film en trois dimensions. Les spectateurs avaient déjà des lunettes avec des verres spéciaux pour voir en relief les images. À partir des années 2000, beaucoup de films se tournent en 3D et les salles de cinéma connaissent une grande révolution en passant au numérique. Les films ne sont plus projetés à partir d'une pellicule photographique, mais à partir d'un ordinateur. En 2019, près de 700 films sont sortis sur les écrans français. Et la Loire-Atlantique se classe à la troisième place dans le nombre de sorties.
Voilà, et on espère que les cinémas réouvrent très bientôt. Voilà, merci beaucoup à vous quatre pour toutes ces suggestions variées et ce point d'histoire. On se retrouve dans un instant dans la tribu et cette fois, nous allons parler d'environnement. Yeah, 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 yeah.
Merci d'écouter La Tribu.
Bienvenue dans La Tribu. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours au collège Albert Vincent avec la classe de 6e Kézako pour leur première émission enregistrée le 15 décembre 2020. Et pour la suite du programme, je laisse faire Liam.
Dans cette deuxième partie d'émission, la classe a souhaité vous parler de l'environnement et de la problématique des déchets. En effet, l'augmentation de la consommation de plastique a des impacts directs sur l'environnement et sur l'homme. Chaque année, ce sont environ 8 millions de tonnes de déchets qui finissent dans les océans. Benny a choisi de vous alerter sur le 7e continent.
Bonjour, je voudrais vous parler du 7e continent et une immense plaque de déchets dans l'océan Pacifique. Charriés par les courants marins, les déchets se retrouvent au large et 70% finissent par couler. Sur 30% restant, une partie est recrachée par l'océan sur nos plages, mais une partie continue à dériver, notamment dans le Pacifique. Cette pollution océanique, découverte en 1997 par l'océanologue Charles Moore, ne cesse de s'agrandir sous l'effet des courants marins. En effet, l'expédition 7e continent explique que sous l'effet de la rotation de la Terre, les courants marins créent d'énormes tourbillons qui piègent les déchets présents dans l'océan. Une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Report vient de montrer que cette zone située entre Hawaï et le Japon s'étendrait de plus de 3,4 millions de kilomètres carrés, soit 6 fois la taille de la France, avec plus de 1,8 milliard de morceaux plastiques, soit 80 000 tonnes flottant dans l'océan Pacifique. Ce sont des microparticules de plastique inférieures à 5 mm et malheureusement, il existe 4 autres zones où ce phénomène se produit, une encore dans le Pacifique et 2 à l'Antarctique et 1 dans l'océan Indien. Au total, 5 milliards de débris plastiques flottant dans l'océan.
Voilà, alors il me semble que c'était 2 dans l'Atlantique.
Oui.
Ouais, c'est ça. Non, mais qu'on ne donne pas une fausse information à nos auditeurs. Liam, je te laisse poursuivre.
Revenons à notre aire urbaine de Saint-Nazaire qui comptait 220 000 habitants en 2016 selon l'INSEE. Ainsi, en 2019, près de 74 000 tonnes de déchets ont été collectées en déchetterie. Or, 77% de ces déchets ont été réutilisés, dont 37% en valorisation énergétique. C'est-à-dire qu'ils ont été brûlés et la chaleur dégagée a été utilisée. 25% en valorisation de leur matière, 15% en valorisation organique, c'est-à-dire qu'ils ont été transformés en matière à utiliser. 12% ont été utilisés comme remblai sous des maisons ou sous des routes et 11% ont été enfouis d'après les chiffres de la Carène. Mais chaque année, les Français et les Françaises jettent 81 000 tonnes de déchets sauvages dans la nature, sur les bords des routes, dans les rues, sur les plages, à la campagne ou à la montagne. Soit plus de 60 kg de déchets par seconde, tels que des mégots de cigarettes, des canettes, des mouchoirs, des masques et autres déchets en tout genre. Vous l'aurez donc compris, nous produisons beaucoup trop de déchets à Saint-Nazaire. Stop aux déchets, stop à la pollution, trions nos déchets. Pensons à préserver notre planète.
Pour finir sur ce thème, comment se passe le tri des déchets au collège ? Un système de recyclage des déchets a été mis en place au niveau de la cantine. Ainsi, les yaourts, le pain et les serviettes en papier sont triés et donc jetés dans des poubelles différentes. Les pains sont ensuite donnés à l'association Pain contre la faim. Cette association récupère ce pain pour le donner à des animaux de ferme. N'oublions pas que n'importe qui peut décider de donner ses restes de pain à cette association. Le collège travaille également avec une deuxième association nantaise se nommant les Papiers de l'Espoir. Plusieurs fois dans l'année, des bénévoles viennent récupérer tous les papiers collectés au collège et les revendent à des entreprises spécialisées dans le recyclage. L'argent récolté finance des projets humanitaires et éducatifs dans le monde. Pour vous donner une idée, en 2019, l'association a récupéré 3500 tonnes de papier, ce qui a permis d'aider 55 projets humanitaires de scolarisation d'enfants. Il est important de trier ces déchets car certains déchets mettent beaucoup de temps à se dégrader. Comme par exemple les bouteilles plastiques qui peuvent mettre de 100 à 1000 ans, ou encore 400 ans pour les sacs plastiques, 5 ans pour les chewing-gums et 2 ans pour les cigarettes. Ainsi, les experts disent qu'un masque mettrait entre 50 et 500 ans à se dégrader. C'est pourquoi dans les poubelles jaunes, nous trions le plastique, le carton, le papier, les briques alimentaires, les boîtes de conserve, les pots de yaourt et les films plastiques. Dans les poubelles bleues, il s'agit de tous les autres déchets, sauf les déchets d'origine végétale qui sont alors déposés dans le compost du collège. En conclusion, ne vous dites jamais que jeter un chewing-gum par terre, ce n'est rien. Car un petit geste multiplié par plus de 7 milliards d'habitants sur Terre peut avoir de graves conséquences pour l'environnement. Par exemple, un sac plastique jeté par terre à proximité du collège aura toutes les chances de finir dans l'océan Atlantique et il pourra alors causer la mort d'un poisson, d'une tortue ou d'un oiseau marin qui l'aura ingéré. Utilisez les poubelles, triez et ne jetez rien par terre.
Merci Charlotte, Benny et Liam pour toutes ces informations et conseils. J'imagine que vous faites attention à vos comportements. Hein. Vous écoutez, on a l'impression que c'est très 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 très, très clair pour vous. On va continuer de parler d'environnement et cette fois avec Ewen et Yuna. Bonjour.
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 Ça va ?
Oui.
Oui. Alors vous, si j'ai bien compris, vous êtes allée à la rencontre de Madame Leroc, qui est professeure de SVT et aussi la professeure principale de la 5e Bloom au collège Albert Vincent, c'est bien ça ?
Oui.
On écoute tout de suite cette rencontre ?
Oui.
Oui.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Bonjour, je suis Madame Leroc, professeure de SVT au collège Albert Vincent. SVT, ça veut dire sciences de la vie et de la terre.
Pourquoi avez-vous choisi ce projet de classe et quel est l'objectif de ce projet ?
Alors Bloom, ça vient du nom d'une association qui a été créée en 2005 par une journaliste qui s'appelle Claire Nouvian. Et le but de l'association, c'est de protéger les espèces marines des grands fonds océaniques. Ils ont par exemple fait une pétition contre la pêche électrique et il y aura une loi qui a été votée, qui va être appliquée en 2021.
Est-ce la première année que vous vous lancez dans un tel projet ?
Il y a 2 ans, j'ai été professeure principale d'une classe qui s'appelle la 5e Rachel Carson et c'était aussi l'eau et le développement durable. Sauf qu'il y a une petite différence, cette personne était une scientifique qui avait dénoncé déjà à l'époque, c'était assez longtemps, l'usage du DDT et des produits chimiques qui polluent les océans.
Vos 5e partagent-ils ce projet avec une autre classe ?
Non, aucune classe ne partage ce projet.
Avez-vous prévu des sorties scolaires dans l'année ?
Oui, on a fait, est-ce que c'est une sortie ? On a fait une opération Nettoyons la nature, sponsorisée par Leclerc. Et on a fait un nettoyage aux alentours du collège. On a ramassé des déchets, parce que les déchets plastiques notamment, ça peut polluer les mers et les océans. Donc ça, on l'a fait, fin octobre. Et oui, d'autres sorties sont prévues, si c'est possible.
La situation sanitaire entraîne-t-elle des difficultés pour votre projet ?
Oui, parce que j'avais pensé faire des visites, aller à l'océarium. J'avais pensé inviter une association pour parler de la pollution liée au plastique. Et pour l'instant, je ne sais pas quand ça va être possible de faire. La crise sanitaire nous bloque un peu, pour au niveau des projets, des dates.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup à Madame Leroc d'avoir accepté votre invitation, d'avoir répondu à vos questions. Et on voulait en savoir un petit peu plus encore sur ce projet, parce qu'on a eu la professeure, c'est bien, mais d'avoir les élèves, c'est encore mieux. Donc, après ce que j'ai compris, vous avez des invités avec vous aujourd'hui.
Oui.
C'est Farah et Manon qui sont là, et donc vous faites partie de la 5e Bloom, c'est ça ?
Oui.
Bon, j'en profite parce que je les connais peut-être finalement mieux que Ewen et Yuna, puisque Farah et Manon, l'année dernière, elles étaient en 6e La Tribu, donc on s'est un peu croisés déjà. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, je vais vous laisser répondre aux questions de Ewen et Yuna.
Farah, dans l'ensemble, ce projet est-il apprécié par les élèves ?
Oui, la plupart des élèves aiment bien ce projet.
Que pensez-vous du projet ?
Il est bien.
Pourquoi il est bien ? Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce projet ?
Ça nous permet aussi de protéger les espèces marines, comme les poissons, etc.
Qu'avez-vous commencé à faire pour le projet ?
On a commencé à faire quelques exercices, c'est-à-dire on devait aller sur le site de l'association Bloom pour, par exemple, reprendre certaines choses de ce qu'il y avait sur le site qu'on devait recopier sur une feuille.
Et on a aussi fait une sortie où on est allé ramasser les déchets.
Vous êtes allé les ramasser où ?
Aux alentours de l'école Ferdinand Buisson.
D'accord, donc pas très loin non plus de votre collège.
Oui.
Et c'était bien ça ?
Oui, parce que ça permet d'aider la nature et à sauver la planète.
Et puis aussi peut-être de se rendre compte un petit peu de tout ce que les gens peuvent jeter par terre.
Oui.
Vous avez ramassé combien ?
Presque tous les sacs étaient remplis.
Et il y avait combien de sacs ? Un par élève ?
Un par groupe de 2 élèves.
Ah oui, quand même. Donc, je sais pas, vous êtes une classe de quoi ? 24, 26 ?
27.
27, 27. Donc, on est quand même sur quasiment... Oh là là, oui, 13, 14 sacs, quoi. Ah oui, juste à côté du collège.
Oui.
Ok. Et il y avait quoi dans ces sacs, on peut vous demander ?
Oui. Il y avait des canettes, des papiers de bonbons.
On avait aussi trouvé, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est sur les roues.
Ah, des enjoliveurs.
Oui, oui. Voilà.
Alors ça, des fois, les gens les perdent sans s'en rendre compte. On va se dire qu'ils ne les ont peut-être pas jetés intentionnellement. Et des masques.
Oui.
Beaucoup.
Oui.
Oui.
Ça, c'est dingue.
Il y avait aussi des bouteilles de bière.
Du verre.
Bon, en tout cas, c'est chouette hein, d'être allé ramasser. Après, je dirais que c'est bien d'être allé ramasser, mais c'est quand même dommage que vous ayez à le faire. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que c'est bien aux gens de ramasser leurs déchets au fur et à mesure. Enfin, de ne pas jeter leurs déchets par terre.
Hein. Oui.
Et pour revenir à l'association, quel est l'emblème de l'association Bloom ?
L'emblème de l'association Bloom, c'est un calamar cochonnet.
Et quel est cet animal ?
Le calamar cochonnet, c'est un assemblage de calamars et de cochonnets qui a des sortes d'antennes et il est tout petit et on dirait qu'il ressemble un petit peu à un ballon.
D'accord. J'imagine un truc, je sais pas s'il vaut mieux que je l'imagine. Je vais aller voir hein, ce que ça donne parce que je sais pas, le calamar cochonnet avec les antennes, tout ça, ça m'interpelle. Vous avez d'autres questions ?
Non.
Non.
Vous savez déjà aussi ce que vous allez faire au fur et à mesure de l'année ? Vous avez d'autres...
Oui, un petit peu.
Alors, on vous écoute.
Madame Leroux, elle nous a prévu, je crois, une sortie avec Monsieur Billard, notre professeur d'histoire-géographie, à l'océarium.
Du Croisic ?
Oui.
D'accord. Vous êtes déjà allé ?
Non.
Non. Oui. Et toi, oui ?
Oui.
Donc, ça va être une première ? Ah, oui. Tu vas voir, c'est un chouette endroit. Super, alors une sortie à l'océarium. Bon bah très bien, en tout cas beau projet, c'est Merci. Très chouette. Et puis bravo à vous hein, pour avoir récolté tous ces sacs de déchets. Vous allez refaire un ramassage comme ça c'est...
Sûrement, oui.
D'accord, ok. Et bah écoutez, bon courage à vous.
Merci.
Et merci beaucoup Ewen et Yuna.
Merci.
Nous avons parlé d'environnement avec Charlotte, Benny et Elia, mais nous allons continuer, mais cette fois en parlant des animaux et des dangers qui les guettent en compagnie d'Inès.
Bonjour, l'année 2019 a été marquée par un rapport alertant sur la menace d'extinction de plusieurs espèces dans le monde. Ainsi, rien que sur la décennie qui vient de s'écouler, plus de 400 espèces ont disparu. Les causes principales de ces disparitions sont la dégradation de leur habitat, du fait de l'utilisation massive de pesticides notamment. Ainsi, les chaînes alimentaires sont rompues, avec par exemple la disparition de certains animaux tels que les insectes. Il est désormais temps de changer notre fonctionnement pour préserver la planète, sinon d'autres espèces vont disparaître et l'être humain sera lui-même menacé. Alors préservons notre environnement par les efforts de chacun et chacune dans la vie quotidienne.
Merci Inès, et on va continuer avec Jamily qui a choisi de nous parler d'un animal en particulier qui est actuellement très menacé.
Les ours polaires. L'ours polaire est une espèce qui vit en Arctique. Il est même devenu un symbole de la banquise arctique. Après avoir été chassé par l'homme durant près de 300 ans, les ours polaires sont maintenant confrontés à de nouvelles menaces. Le réchauffement climatique et la pollution. C'est pourquoi l'ours polaire est connu en important déclin à partir du 19e siècle. Cependant, depuis un accord international, en 1976, cette espèce est désormais protégée. Aujourd'hui, des images d'ours polaires affamés ou coincés sur des morceaux de banquise dérivant font régulièrement le tour des médias et d'Internet. En effet, les changements climatiques entraînent une diminution des ressources alimentaires de l'ours polaire et la fonte des glaces transforme leur mode de vie. Il reste entre 20 000 et 25 000 ours polaires sur la planète. Si nous ne diminuons pas urgemment nos émissions de gaz à effet de serre, un tiers des ours polaires disparaîtra d'ici 2050.
Et on change de continent avec Paulina qui nous présente un autre animal, lui aussi en danger.
Le dingo est un chien australien issu d'un chien domestique, revenu à l'état sauvage. Bien qu'il ressemble à un chien, le dingo est un animal sauvage. On le considère parfois comme une sous-espèce de la famille des loups. Les dingos mesurent 47 à 67 cm pour un poids de 10 à 20 kg. Ils n'aboient pas mais éternuent bruyamment. Lorsqu'ils se sentent menacés, ce sont des animaux aux oreilles dressées, à la queue recouverte de poils durs, généralement roux, mais parfois aussi noirs, avec des taches blanches et roses. Ils vivaient en bande de 3 à 12 individus. Les dingos ne sont reproduits qu'une fois par an, avec en moyenne 8 petites portées. Les dingos sont rapides puisque leur vitesse de poids est de 38 km en moyenne. Ils sont également endurants
et peuvent parcourir leur longue distance pour trouver de la nourriture et de l'eau. Ce sont des prédateurs qui se nourrissent des proies variées, mammifères, oiseaux, reptiles, insectes, même de fruits. Ce chien emblématique de l'Australie risque cependant de disparaître à cause de la chasse dont il est victime de l'être humain qui voit en lui une menace pour les troupeaux et en raison des croisements avec les chiens domestiques.
Merci beaucoup, mesdemoiselles. Et oui, il faut faire très attention à nos gestes au quotidien parce que ceux-là ont des impacts aussi sur les animaux et beaucoup, beaucoup d'espèces de plus en plus sont en danger. Donc attention, on fait une courte pause dans la tribu et on se retrouve dans un instant pour clôturer cette émission. Merci.
La tribu sur Saint-Nazaire, c'est sur le 106.9. Mais si tu veux nous écouter d'un peu plus loin, voire même de beaucoup plus loin, la tribu est aussi sur Internet.
Pour retrouver tes programmes préférés, rendez-vous sur le www.latriburadio.com.
Place maintenant à Maxime et Enzo pour la chronique média, chronique que nous retrouverons à chaque émission. Et aujourd'hui, le thème abordé est particulièrement d'actualité, puisque les gars, vous allez nous parler de liberté d'expression.
Comment définir la liberté d'expression ? La liberté d'expression est un droit fondamental reconnu par l'article 11 de la Déclaration des droits des hommes et du citoyen. Il est écrit « La communication des pensées et des opinions est un droit des plus précieux de l'homme ». Ce droit garantit la possibilité de dire ce que l'on pense et de donner son avis tout en respectant certaines limites imposées par la loi.
Les limites de la liberté d'expression. La loi condamne les appels à la haine et à la violence. L'injure, la discrimination et le racisme ne sont pas non plus tolérés. Injurier, quelqu'un en raison de sa couleur de peau, sa nationalité, sa religion, son handicap, son sexe ou son orientation sexuelle. C'est interdit. On ne peut pas non plus souhaiter publiquement la mort d'un individu, ni défendre ou justifier les crimes de guerre contre l'humanité et le terrorisme.
La liberté d'expression est-elle appliquée dans le monde entier ? Malheureusement, la liberté d'expression n'est pas garantie dans tous les pays du monde. Les pays qui sont soumis à des dictatures comme en Chine ne respectent pas le droit de s'exprimer et une personne peut être arrêtée pour avoir exprimé des opinions qui ne plaisent pas au pouvoir politique en place. Et dans notre vie, que fait-on si on n'est pas d'accord quand on discute ? Si les autres ne sont pas d'accord avec nous, ce n'est pas grave. Le plus important est de pouvoir exprimer ses idées et de pouvoir ainsi échanger des idées et même pouvoir débattre de ses idées.
Merci beaucoup Maxime et Enzo, c'était très intéressant. Cette émission est bientôt terminée mais nous avons appris plein de choses. Il est temps pour nous de nous tester. Avons-nous bien tout écouté ? La réponse tout de suite en compagnie de Suzanne qui nous propose un quiz sur l'émission. Alors est-ce que tu donnes des notes à la fin du quiz ? Oui, Suzanne, elle a préparé le stylo rouge et tout comme ses profs quoi. Non, je rigole Suzanne. Bon alors nous t'écoutons.
Et maintenant, le quiz pour tester votre écoute pendant cette émission. Élise, tu as le droit de jouer, mais interdiction de donner des réponses aux auditeurs.
D'accord.
Dans quel lycée le collège Albert Vincent s'approvisionne-t-il en gel hydroalcoolique ? Y a-t-il déjà eu une épidémie comme le Covid ? Si oui, quand ? Qui détient le record de la course du Vendée Globe ? Que veut dire Alcide ? Comment s'appelle le roman de Jules Verne dans lequel on parle du sous-marin Nautilus ? Combien de films sont sortis en France en 2019 ? Comment s'appellent les associations qui récupèrent le papier et le pain au collège ? Quelle est la vitesse de pointe du dingo ? Quel est le film coup de cœur où vous a présenté Shana ? Combien de repas sont servis chaque jour à la cantine ? Les réponses seront mises sur le site de la tribu et sur le site du collège.
Il fallait être très très à l'écoute et avoir une bonne mémoire. Moi, je dois avouer que je suis peut-être sur un 7 sur 10, mais voilà, il y en a certaines, je dois avouer que j'ai un peu oublié. Manque de précision sur ce coup-là. La prochaine fois, je ferai mieux. Kézako, la première, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Monsieur Rochon, à Madame Leroc, à Madame Charpentier et au 5e de la classe Bloom d'avoir accepté de répondre à vos questions. Merci au Collège Albert Vincent pour l'accueil. Bien évidemment, merci à Madame Lavalard et Madame Tolly pour cette super première émission. Et merci hein, surtout un très grand bravo aux élèves de cette 6e Kézako, Achille, Aristide, Arthur, Baptiste, Béni, Chanel, Charlotte, Enzo, Ewen, Gabriel, Inès, Jamili, Liam, Lily, Jeanne, Lucia, Linette, Marie, Maxime, Nino, Paulina, Romane, Sarah, Shana, Suzanne, Tom et Yuna. Vous avez assuré pour cette première émission. Bravo à vous.